le journal Lise Verbeek, bonsoir.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. L'attentat suicide dans un centre culturel chiite de Kaboul a été revendiqué par le groupe État islamique. Au moins 41 personnes ont été tuées, la minorité chiite régulièrement ciblée. La dernière attaque avait eu lieu il y a 2 mois dans une mosquée de la capitale afghane. Nous serons sur place avec notre correspondante Sonia Ghezali. Le Pérou continue de s'enfoncer dans la crise politique. Des ministres démissionnent, les Péruviens manifestent pour dénoncer la grâce accordée dimanche à l'ancien président Alberto Fujimori, jugé coupable de crimes contre l'humanité. Les précisions d'Éric Sanson. Que faire des djihadistes français arrêtés en Syrie et en Irak? La question revient régulièrement alors que pour la première fois, 3 enfants d'un couple djihadiste français viennent d'être rapatriés d'Irak. La grogne des maires ruraux de France, choquée par cette nouvelle mesure qui augmente l'indemnité des élus uniquement des grandes villes. Les précisions avec Mélanie Juvet. La Basse-Autriche se targue de produire 100% d'électricité verte dans un pays qui a dit non au nucléaire il y a déjà 40 ans. C'est notre dossier de ce soir, la Basse-Autriche, un modèle réussi de la transition énergétique. Les vitres du centre culturel chiite et de l'agence de presse ont été soufflées par la puissance de l'explosion. À Kaboul, le bilan humain de l'attentat est très lourd. Au moins 41 personnes ont été tuées, des dizaines de blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Sonia Ghezali, vous étiez sur place. Le drame s'est passé durant un rassemblement.
Oui, et dans la cour de ce centre culturel, le sol est recouvert de débris verts. Toutes les vitres de la bâtisse ont été soufflées dans un sac en plastique gisant au sol. Et bien se trouvait la main du kamika selon un groupe d'hommes qui inspectaient les débris quand je me suis rendue ce matin. Le sous-sol est entièrement calciné, des restes humains étaient encore visibles. C'est là que le kamika s'est fait exploser au milieu d'un rassemblement d'étudiants et de mollahs. Et quelques minutes après, 2 explosions ont retenti dans la rue, faisant à nouveau de nombreuses victimes. Il faut savoir que ce quartier est à majorité chiite. La communauté est régulièrement visée par l'organisation État islamique qui a revendiqué l'attentat.
Et cette attaque est la plus sanglante depuis celle ayant visé une mosquée chiite en octobre. Attaque également revendiquée par l'État islamique. En Afghanistan, Sonia, il y a une double menace, le groupe État islamique et les talibans. Est-ce que ce sont 2 groupes rivaux ?
De groupes rivaux, oui. Dans l'Est, où le groupe État islamique s'est implanté il y a moins de 3 ans, et bien les talibans les combattent régulièrement puisqu'ils empiètent sur leur territoire. Néanmoins, des suspicions de collaboration ponctuelle existent dans le cadre d'attaques complexes, par exemple, comme celle de l'hôpital militaire de Kaboul il y a à peu près 1 an. Mais ce que l'on voit également, ce sont des talibans qui retournent leur veste pour prêter allégeance au groupe État islamique et commettre des attaques en son nom.
Merci Sonia Ghezali, notre correspondante de France Culture à Kaboul. Des attaques sanglantes en Afghanistan, tandis que son voisin, le Pakistan, subit lui aussi les attentats du groupe État islamique. Il y a 2 semaines, un attentat suicide a visé une église méthodiste dans le sud-ouest du pays, tuant 8 personnes. Bonsoir Nadine Epstein.
Bonsoir.
L'insécurité au Pakistan et sa situation sanitaire restent préoccupantes.
Et c'est d'ailleurs au nom de la sécurité que les autorités pakistanaises ont retiré à l'ONG Médecins Sans Frontières l'autorisation de fournir une assistance médicale dans des régions rurales, tribales, Kuram, Sada, Alizé, où donc depuis septembre, MSF a dû partir. L'ONG discute encore avec le pouvoir pour reprendre ses activités auprès des femmes et des nourrissons qui de ce fait se retrouvent abandonnés à leur sort, car seules les grandes villes ont les capacités sanitaires et médicales de soigner les naissances prématurées et toutes les complications liées à la maternité. Catherine Muti, chef de MSF au Pakistan. Le Pakistan est l'un des pays qui a le taux de mortalité le plus élevé au monde et les autorités ne s'en préoccupent pas vraiment. Le système de santé dans les centres urbains fonctionne bien grâce à un système privé, mais les problèmes sont pour les femmes qui doivent accoucher dans des régions reculées. Mais ce n'est pas très différent des cas de femmes en Australie ou en Amérique qui n'ont pas accès aux services médicaux. Au Pakistan, c'est pareil. Le système de santé existe, mais pas pour tout le monde, les plus éloignés, les plus démunis en sont privés. Par exemple, justement, le programme qu'on a dû fermer proposait des services d'urgence et d'hospitalisation rapide qu'aucun établissement ne peut fournir immédiatement. Et les gens ne peuvent pas aller à Peshawar. Là, on peut s'en sortir si on a des complications pendant la grossesse. Et c'est pour cela que MSF reste au Pakistan. Les infrastructures médicales et les services ne sont pas au niveau où ils devraient être. Ce n'est pas non plus une priorité pour le gouvernement, ce n'est pas que les autorités s'en fichent, mais c'est dû au fait que ce sont des régions minées par des années de conflits, comme celle à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Voilà, Catherine Muti qui explique qu'elle continue de discuter avec les autorités, mais que pour l'instant, seuls les grands centres et les grandes villes du Pakistan sont sécurisés et bien médicalisés.
Merci Nadine Epstein. Les effets de l'accord sur le nucléaire iranien tardent à se faire sentir et les Iraniens ne le supportent plus. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui à Mashhad, la deuxième ville du pays, pour dénoncer la hausse des prix et la politique du président Rouhani, la corruption et la mauvaise gestion publique. Une foule qui a scandé « Mort à Rouhani, mort au dictateur ». Le chômage dans le pays est de 12%, en augmentation cette année de 1,4 points selon l'Institut iranien de la statistique. La grâce accordée à Alberto Fujimori ne passe toujours pas pour les Péruviens qui continuent de manifester depuis dimanche. Et la demande de pardon depuis son lit d'hôpital de l'ancien président il y a deux jours n'y a rien changé. Fujimori avait été condamné à 25 ans de prison pour crime contre l'humanité. Le président actuel du pays, Pedro Kuczynski, a décidé de lui accorder une grâce humanitaire et ce malgré le traumatisme encore bien présent dans le pays suite aux abus commis sous la présidence de Fujimori. La grâce a provoqué une crise politique. Les manifestants et l'opposition accusent le président de tenter de rester au pouvoir avec le soutien des partisans de Fujimori, Eric Sanson.
Que les ministres mettent leur poste à disposition du président de la République en fin d'année est une tradition au Pérou, un geste de courtoisie politique. Cette année pourtant, le remaniement ministériel s'annonce plus important que prévu. Outre le nouveau ministre de l'Intérieur qui a prêté serment ce mercredi, il faudra remplacer le populaire ministre de la Culture qui a démissionné. Le ministre de la Défense est aussi dit sur le départ. Ratifiée par le chef de l'État, la première ministre Mercedes Araos a nié une nouvelle fois que la grâce concédée à Fujimori ait été négociée pour permettre le maintien au pouvoir de Pedro Pablo Kuczynski. Araos estime que le futur gouvernement devra améliorer sa gestion, se rapprocher du peuple et de la vérité pour en arriver à une véritable réconciliation. Tout un programme dans une ambiance de manifestation quotidienne. La vague de démission touche également les cercles médiatiques et culturels. Le président de la télévision publique a démissionné, ainsi que deux présentateurs de journaux, des écrivains et critiques littéraires. Plus de 350 musiciens et chanteurs ont signé une déclaration répudiant la grâce concédée à Alberto Fujimori. Pour ne rien arranger, le président Kuczynski va être entendu ce jeudi par le parquet en qualité de témoin pour expliquer les relations entre deux de ses sociétés et la sulfureuse compagnie Odebrecht accusée de corruption.
Mais l'affaire Odebrecht tient du nom du géant du BTP brésilien, scandale de corruption qui éclabousse toute l'Amérique latine. L'Italie va déployer 470 militaires au Niger sur demande de Niamey pour renforcer le contrôle du territoire. Le Niger est devenu l'un des principaux points de passage sur la route des migrants, dernière étape avant la Libye. Migrants qui passent désormais par le désert sur des chemins moins surveillés mais plus dangereux. Avec ce renfort de soldats, le gouvernement italien indique « Nous allons au Niger pour faire ce que nous faisons normalement dans ces pays, comme par exemple en Libye, renforcer les instruments de contrôle du territoire et des frontières et renforcer les forces de police locales ». Fin de citation. C'est le premier rapatriement d'enfants d'un couple français djihadiste d'Irak. Ils ont 3, 5 et 8 ans et sont arrivés à Roissy la semaine dernière et ont été placés en famille d'accueil. La mère et son plus jeune bébé sont restés sur place en Irak. Le père a été tué lors de la reprise de Mossoul. Les deux parents, originaires de Seine-et-Marne, avaient rejoint le groupe État islamique en 2015. Ce retour est le fruit d'un dialogue intensifié ces derniers mois entre le Quai d'Orsay et la Croix-Rouge, ont indiqué les avocats de la famille. La question du retour des hommes, des femmes, des enfants arrêtés en Syrie ou en Irak est régulièrement posé. C'est ce que souhaitent les familles, mais en novembre dernier, Emmanuel Macron avait déclaré que leur sort serait examiné au cas par cas, en fonction des situations. Ce que dénonce Marie Dosé, elle est avocate et travaille sur ce type de dossier.
Emmanuel Macron a évoqué un cas par cas, qui à mon avis ne peut côtoyer que l'arbitraire, qui va pouvoir rentrer, qui doit rester en Irak pour être jugé, qui doit rester en Syrie pour être jugé. La peine de mort existe en Irak, elle est appliquée en Irak et nous assumons donc le fait que des citoyens français soient exposés à une exécution. Ce n'est pas possible. Ces infractions, elles sont commises autant en France qu'à l'étranger. L'association de malfaiteurs, elle commence en France. Je comprends très franchement mal cette idée qui serait de tomber dans la vulgarité du « puisqu'ils ont voulu y aller, qu'ils y restent ». Je crois qu'il appartient à la société française et à la justice française d'assumer ce qui a été commis, et ce qui a été commis par des Français d'abord en France, qui ont eu des velléités djihadistes à l'extérieur. De toute façon, toutes ces personnes qui vont rentrer et qui doivent rentrer, elles passeront par la case prison. Moi, j'ai un peu peur que le discours d'aujourd'hui, c'est elles veulent rentrer en France parce que la justice française est laxiste. Attention, la justice antiterroriste est extrêmement dure. On est dans le tout répressif. Nous, les avocats, nous savons pertinemment qu'il y a très peu de personnalisation des peines et qu'on est toujours dans le quantum le plus dur s'agissant du prononcé des peines d'emprisonnement. Donc ces personnes vont être jugées sans pitié en France. Je comprends mal cette médiocrité qui serait de dire elles ont voulu partir en Syrie, qu'elles soient jugées en Syrie, qu'elles soient jugées en Irak, qu'elles soient condamnées à mort, elles ne nous appartiennent plus. Ces personnes nous appartiennent, elles appartiennent à la République française, c'est à nous de les juger.
L'avocate Marie Dose est interrogée par Florence Sturm. La nouvelle loi antiterroriste est soumise au Conseil constitutionnel. Les sages vont devoir se prononcer sur ce texte qui a pris le relais de l'état d'urgence. Quatre questions prioritaires de constitutionnalité ont été déposées par la Ligue des droits de l'homme et un Français assigné à résidence à Grenoble. Elles visent notamment les fermetures des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et les visites et saisies qui ont succédé aux perquisitions administratives. Les QPC devraient être examinés d'ici la mi-mars. Les décrets d'application sont à peine publiés que déjà des entreprises réfléchissent à mettre en place les ruptures conventionnelles collectives, mesure qui fait partie des ordonnances réformant le code du travail. Pinky, les Inroc, mais surtout PSA, le constructeur automobile a récemment convoqué les représentants syndicaux à une réunion de négociation début janvier. La rupture conventionnelle collective permet de rompre un contrat de travail sur la base du volontariat et sans motif économique. L'employeur, avec l'accord des syndicats, peut alors s'affranchir d'une démission ou d'un licenciement, une flexibilité que dénonce Jean-Pierre Mercier, délégué central CGT du groupe PSA.
C'est inacceptable. D'ores et déjà, la CGT annonce qu'elle ne signera pas ces accords. Il faut savoir que depuis des années, la direction de PSA a supprimé près de 25 000 emplois CDI dans les usines et dans les bureaux chez PSA. Là, la direction espère en rajouter une couche avec la mise en application de ce décret de la loi travail, de la loi Macron sur les ruptures conventionnelles collectives. Bien sûr que c'est une aubaine. C'est une facilité pour continuer à supprimer des emplois en faisant diminuer les primes de départ tranquillement pour faire encore plus de bénéfices. Tout ça est un véritable scandale. J'espère bien, parce qu'il faut un accord majoritaire des syndicats pour que cette mesure honteuse puisse s'appliquer chez Peugeot. Eh bien, j'espère qu'on trouvera des appuis pour faire bloc face à la direction, pour défendre véritablement les intérêts des salariés dans cette affaire-là.
Jean-Pierre Mercier, délégué CGT chez PSA. Les syndicats donc de PSA sont convoqués le 9 janvier à Poissy pour discuter des modalités de cette procédure. Voilà qui nourrit encore un peu plus le vent de colère des maires de petites communes et leur sentiment d'être les oubliés du gouvernement. L'inégalité des maires concernant leur indemnité. Une nouvelle disposition permet aux élus des grandes villes de plus de 100 000 habitants, des présidents de région et de département d'augmenter leur indemnité de 40% par mois. Bonsoir Mélanie Juvet.
Bonsoir.
Cette mesure, selon les maires ruraux, renforce la précarisation de leur statut.
En effet, l'association des maires ruraux de France s'offusque. C'est le gratin des élus qui est concerné par cette mesure au détriment des élus ruraux aux indemnités modestes. À l'image de Claude Kaiser, il a été maire de Ménil-la-Horgne dans la Meuse jusqu'en 2008. S'il ne souhaite pas que les indemnités des élus locaux augmentent, il est choqué par cette mesure.
Choqué par le fait que des maires de grosses municipalités qui touchent déjà des indemnités substantielles, à mon sens, puissent encore les augmenter. Ça crée une distance entre l'élu et les citoyens, surtout les citoyens les plus modestes. La fonction devient une espèce de titre honorifique. Les élus, à mon sens, ne devraient pas avoir plus du salaire médian qui est celui des Français, sinon ça devient une rente.
Le Sénat justifie la mesure, il faut aligner les salaires des élus sur ceux des hauts fonctionnaires. Un autre argument, compenser la perte de revenus due à la fin du cumul des mandats. Oui, mais cette disposition doit être étendue à toutes les communes de France pour Martin Malvy, ex-ministre. Aujourd'hui, il dirige le Grand Figeac, une communauté des communes dans le Lot.
Véritablement, les élus français, et notamment les élus municipaux, ne sont pas reconnus pour le travail qu'ils font. Ils méritent mieux. Et souvent, ou toujours, les indemnités sont extrêmement faibles pour un élu communal, qui est en même temps un élu communautaire. Quand il a 5, 6, 7, 8, 10 réunions par quinzaine, c'est le seul actif qui n'est pas indemnisé pour ses déplacements.
L'État ne versera pas un centime pour financer cette mesure. L'enveloppe globale de rémunération des élus locaux ne bougera pas, ce qui signifie que les maires concernés devront faire adopter en conseil l'augmentation de leur indemnité, au détriment donc de celle d'autres élus.
Mélanie Juvet, merci. L'obsolescence programmée déjà dans le viseur des associations de consommateurs l'est aussi désormais dans le viseur de la justice. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire pour obsolescence programmée et tromperie sur l'aptitude à l'emploi contre le fabricant d'imprimantes Epson. L'enquête ouverte est une première en France, Gabriel Pereira.
Tout est parti d'une plainte déposée en septembre dernier par une association de défense des consommateurs, baptisée HOP pour Halte à l'obsolescence programmée. Dans son collimateur, Epson donc, mais aussi d'autres fabricants d'imprimantes comme Canon ou encore HP. Pour l'association, ces marques programment à l'avance la durée de vie de leurs cartouches d'encre, qui doivent être remplacées alors qu'elles ne sont pas totalement vides. Les fabricants nous forcent à en acheter des nouvelles, estime l'association. Pour l'instant, l'enquête du parquet de Nanterre ne concerne qu'Epson, mais d'autres fronts pourraient s'ouvrir, car depuis août 2015, le délit d'obsolescence programmée est inscrit dans le droit français. L'association HOP compte bien s'appuyer sur cette loi. Elle a d'ailleurs porté plainte hier contre Apple. Le géant américain vient d'admettre ralentir volontairement ses anciens modèles d'iPhone.
Utiliser l'eau, l'air, le soleil pour produire de l'énergie et même de l'énergie suffisante pour toute une population. C'est ce qu'a fait la Basse-Autriche, région la plus vaste du pays, la deuxième plus peuplée aussi, avec 100% d'électricité verte. Dans un pays qui a renoncé par référendum au nucléaire en 78 et qui a investi depuis massivement dans les énergies renouvelables, la Basse-Autriche Isorias qui s'érige en exemple de la transition énergétique.
Le Danube est la principale richesse de cette région. Tout au long du fleuve, de nombreuses centrales hydroélectriques se sont installées. L'une des plus anciennes est celle de Greifenstein.
Ici, on est dans le sous-sol de la centrale de Greifenstein, en dessous du Danube. On entend d'ailleurs les turbines et le débit du fleuve.
Florian Seidel travaille pour Verbund, une entreprise qui exploite plusieurs centrales sur le Danube. Celle de Greifenstein alimente 400 000 foyers en électricité.
L'hydroélectricité est une source d'énergie très stable. C'est pour cela que nous comptons beaucoup sur le Danube dans la région. Il faut en effet toujours avoir une certaine quantité d'électricité stockée pour assurer la stabilité de l'approvisionnement.
À elle seule, l'énergie hydraulique produit 60% de l'électricité consommée en Basse-Autriche, l'éolien 25%. La région veut également développer l'énergie solaire. Elle subventionne ainsi l'installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers. Walter a sauté le pas en 2012 et aujourd'hui, il en est très satisfait.
Momentan. Nous sommes 5 à vivre ici et à consommer de l'électricité. En ce moment, cette électricité est entièrement produite grâce aux panneaux solaires. On peut même approvisionner 2 personnes supplémentaires. Et si je fais la moyenne sur une année, l'électricité est 30% moins chère qu'auparavant, lorsque nous n'avions pas encore ces panneaux photovoltaïques.
Stéphane Pernkopf, le vice-gouverneur de la région, le reconnaît. La transition énergétique a un coût, un investissement de 3 milliards d'euros ces 15 dernières années. Mais c'est très vite rentable. La Basse-Autriche en est le parfait exemple selon lui.
Nous voulons montrer qu'il est possible pour un pays de couvrir ses besoins grâce aux énergies renouvelables. C'est même un très bon investissement, car cela permet de créer des emplois verts et aussi de sécuriser l'économie. Nous avons investi de l'argent dans la région et cela nous permet aujourd'hui d'acheter moins de gaz et de pétrole à l'étranger.
La Basse-Autriche s'est donné un nouvel objectif, couvrir la moitié de ses besoins en énergie grâce aux renouvelables d'ici 2030. Pour cela, des efforts restent à faire dans le bâtiment et les transports, deux secteurs qui consomment beaucoup d'énergie fossile.
Reportage d'Isor Yas. Le réalisateur argentin Fernando Birri est mort hier à Rome. Il était âgé de 92 ans. Fernando Birri était considéré comme le père du nouveau cinéma latino-américain. En 1961, le film Los Inundados lui a valu le prix de la première œuvre à la Mostra de Venise. Les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques sont placés en vigilance orange par Météo France pour un risque fort d'avalanche pour toute la journée de demain. Le temps, le matin, la France sera coupée en deux, de Dunkerque jusqu'à Tarbes. À l'ouest de cette ligne, de la pluie, à l'est, du soleil. L'après-midi, la pluie gagnera pratiquement tout le pays. De la neige est attendue en Moselle. Il fera le matin entre 1 degré à Lille, Strasbourg et Clermont-Ferrand, 4 à Paris, 8 à Rennes, Bordeaux et Nice, 11 à Pau. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun.